VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. 17 ans après les attentats du 11 septembre 2001 dans le pays, le président Donald Trump se déplace ce mardi à Shanksville, en Pennsylvanie, pour rendre hommage, comme ses prédécesseurs George W. Bush et Barack Obama avant lui, aux héros du vol 93. C'est près de cette toute petite ville de l'État de Pennsylvanie, située à quelques 200 km au nord-ouest de Washington, qu'un des quatre avions détournés par des membres d'Al-Qaïda le 11 septembre a fini sa course, alors que les occupants de l'appareil essayaient d'en reprendre le contrôle. Le président Trump effectue cette visite pour marquer le souvenir de cette terrible journée et rendre hommage à ceux qui ont non seulement perdu la vie, mais qui se sont sacrifiés pour d'autres, a souligné Sarah Sanders, porte-parole de la présidence américaine. Et toujours aux États-Unis, les États-Unis ont mené hier une attaque sans précédent contre la CPI, la Cour pénale internationale. Washington a menacé ses juges et procureurs de sanctions s'ils s'en prennent à des Américains, à Israël ou à d'autres alliés des États-Unis. Les précisions de Nani Talani.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a accusé la CPI d'être inefficace, irresponsable et carrément dangereuse. Il a dénoncé la possibilité d'une enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan, mais aussi d'éventuelles enquêtes contre Israël à l'instigation de l'autorité palestinienne. Si la CPI s'en prend à nous, à Israël ou à d'autres alliés des Américains, nous allons interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux États-Unis, prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain et engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire, a mis en garde le conseiller du président Donald Trump. Washington n'est pas membre de la CPI. Cette juridiction a répondu agir strictement dans le cadre légal défini par le statut de Rome et être attaché à l'exercice indépendant et impartial de son mandat.
Et vous terminez cette page américaine. État d'alerte ce mardi sur une vaste portion de la côte est des États-Unis à l'approche de l'ouragan Florence qui s'annonce potentiellement dévastateur. Plus de 1 250 000 personnes ont reçu pour instruction d'évacuer le littoral dans les États de Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Le président Donald Trump a ratifié l'état d'urgence proclamé dans ces trois États de la côte atlantique du pays, permettant ainsi de débloquer des fonds fédéraux pour aider les populations menacées. Pour le moment, des vents atteignant 220 km à l'heure. Afrique maintenant, en Afrique du Sud, la criminalité a encore nettement augmenté l'an dernier pour atteindre une moyenne de 57 meurtres par jour. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de la police, Bheki Tshele, qui a comparé l'Afrique du Sud à une zone de guerre. Au total, 20 336 personnes ont été victimes de meurtres lors des 12 mois qui se sont achevés en mars dernier, soit une hausse de 6,19% par rapport à l'an dernier, selon les statistiques. Un taux qui est l'un des pires enregistrés depuis la chute du régime raciste blanc de l'apartheid il y a un quart de siècle. Entre avril 2016 et mars 2017, 19 016 meurtres avaient été recensés sur le territoire sud-africain, soit 52 par jour. Et puis au Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa continue à se considérer comme le vainqueur des récentes élections dans le pays et a dénoncé les conditions frauduleuses de la victoire du chef de l'État Emmerson Mnangagwa. M. Chamisa veut se faire symboliquement investir samedi président légitime du Zimbabwe. Nelson Chamisa sera reconnu comme le président légitime du Zimbabwe par son parti et par le peuple, conformément aux résolutions de son parti, le MDC, a annoncé aujourd'hui à l'AFP son porte-parole Nkulu Leko Sibanda. Au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en novembre dernier, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été déclaré élu au premier tour de la présidentielle du 30 juillet avec 50,8% des suffrages. Nelson Chamisa, le leader du mouvement pour un changement démocratique, le MDC, a été crédité, lui, de 44,3%. Élection république démocratique du Congo, les évêques catholiques disent avoir sensibilisé la SADC, la communauté économique d'Afrique australe, sur les risques d'un chaos provoqué par le report ou la tenue d'élections biaisées en RDC le 23 décembre. Le point avec Irénée Herman Umbo.
La déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo a été soumise au président zambien Edgar Lungu à Lusaka, responsable des affaires politiques de la SADC. Les évêques congolais s'inquiètent de l'existence sur les listes électorales de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale, de l'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter, de l'exclusion du processus électoral de quelques acteurs majeurs de l'opposition et de la répression des marches d'opposants. D'après les prélats congolais, il y a risque de ne pas avoir des élections le 23 décembre 2018 ou avoir des élections biaisées si ces inquiétudes ne trouvent pas de bonnes réponses. La Cour constitutionnelle a invalidé le dossier de candidature à la présidentielle de l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba. Son parti, le MLC, a promis de mener des actions d'envergure dans les prochains jours.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, affrontement ce mardi matin entre séparatistes anglophones et soldats camerounais à Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest anglophone. Selon un témoin oculaire, joint depuis Yaoundé, des séparatistes armés ont envahi la zone de Mile 16, un quartier périphérique de Boya, bloqué la circulation et incendié des véhicules. Des militaires camerounais, selon la même source, sont arrivés sur place rapidement, obligeant les séparatistes à se retirer du secteur après des échanges de coups de feu. Les combats sont devenus quasi quotidiens dans la région anglophone du pays et la situation sécuritaire s'y est détériorée alors qu'une élection présidentielle est prévue dans le pays le 7 octobre. Les séparatistes ont annoncé que le scrutin n'allait pas se tenir au Cameroun anglophone, mais les autorités camerounaises, elles, promettent que la présidentielle aura bel et bien lieu dans tout le pays. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, le nouveau gouvernement a tenu lundi son premier conseil de cabinet. Tous les 32 membres de la nouvelle équipe gouvernementale étaient réunis autour du Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Comme il est de tradition, la première rencontre avec les anciens et nouveaux s'appelle le conseil de cabinet. Le tout autour du chef du gouvernement, Soumeilou Boubey Maïga, premier ministre du Mali.
J'ai invité les ministres à faire en sorte que très tôt nous puissions être en capacité de répondre aux attentes les plus urgentes de nos concitoyens, qui sont des attentes liées à la cohésion sociale, à la sécurité, mais aussi à l'accès à tout ce qui fonde la légitimité de l'État, sa capacité à offrir des services et des opportunités à l'ensemble de nos concitoyens.
Le Premier ministre a insisté sur la solidarité, l'engagement à la tâche, la collégialité pour une équipe forte. Kamissa Camara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
C'est une lourde responsabilité que le président m'a confiée de conduire la diplomatie malienne. Je compte la mener avec tout le courage et puis toute l'audace nécessaire à la conduite de la diplomatie. Premier conseil, c'était vraiment une prise de contact. Le Premier ministre a décidé de nous réunir pour que nous puissions connaître qui est qui.
Ces orientations du gouvernement ont été données avant la feuille de route que le président de la République présente le mercredi prochain lors du premier conseil des ministres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est maintenant au Ghana, son pays natal, depuis hier. L'illustre disparu sera inhumé jeudi, Jacques Aristide.
Son épouse, Nané Maria Annan, ses enfants et de hauts responsables de l'ONU ont accompagné le cercueil venu de Genève, qui était recouvert du drapeau bleu des Nations Unies. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, était présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, de hauts dirigeants militaires, ainsi que des hommes politiques y ont également participé. Le cercueil a été porté par 6 soldats. Le public sera autorisé à rendre hommage à Kofi Annan à partir d'aujourd'hui. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues ce jeudi pour les obsèques nationales. Kofi Annan, qui résidait en Suisse, sera enterré dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans.
Pour terminer, Ebola en RDC, les analyses de laboratoire se sont révélées négatives à la fièvre hémorragique Ebola après la mort d'une jeune fille présentant des symptômes de la maladie à Kisangani, la quatrième grande ville de la République démocratique du Congo en nombre d'habitants. Un décès qui avait fait craindre la propagation de l'épidémie qui a déjà fait 91 morts dans le Nord Kivu et l'Ituri vers une nouvelle province du nord-est du pays, la Tchopo. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.